ça me fait du bien quand je vois que l'autre se détache et peut vivre sa propre vie, quoi. Mais évidemment, là, c'est vraiment, je ne propose qu'une seule miette des implications qu'il y a, mais ne serait-ce que pour l'aménagement des bureaux et l'aménagement de l'entreprise en elle-même. On a parlé de la différenciation entre stress et stresseur, mais après, dans l'état de stress, il faut faire la différenciation entre stress aigu et stress chronique.
Aujourd'hui, on va repenser notre rapport au monde. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, interview de Pierre Dufraisse et on va sortir des sentiers battus. C'est le genre de podcast d'épisode que j'aime beaucoup parce que on n'a pas invité un spécialiste du management. Tu verras qu'il est dans une toute autre discipline et pourtant les enseignements qu'il va nous donner, il va nous parler de science, il va nous parler du fonctionnement du corps humain, il va nous parler d'un tas de choses qu'on pourrait penser très éloignées du management. Et pourtant, je pense que ça peut être extrêmement riche, ça peut vraiment enrichir ta manière de manager. Je te conseille cet épisode, je te conseille de l'écouter jusqu'au bout. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien et plein de réflexions qui vont peut-être te faire changer ton rapport au stress, te faire changer ta manière d'aménager tes bureaux, te faire changer les rapports que tu vas avoir avec tes collaborateurs, et aussi peut-être te faire remettre en question des paradigmes que tu as sur ce que tes employés recherchent vraiment. Bref, une conversation super riche, une heure à passer avec Pierre, qui est un vrai investissement pour ton métier de manager ou de chef d'entreprise. Alors Pierre, j'ai envie de commencer en te demandant qu'est-ce que c'est, quelle est ta mission et pourquoi tu fais ce que tu fais.
Merci Cédric, parce que je pense que cette question du pourquoi, elle est fondamentale et on se la pose pas assez. Toi qui parles de culture d'entreprise au lieu de vision, je vais essayer de te transmettre ma culture à ma manière. Ce qui m'anime vraiment, c'est l'autonomie. L'autonomie de la pensée et l'autonomie de l'action. Si tu me posais la question comment on peut réussir sa vie ou comment on peut l'échouer, tu sais, cette question comment réussir ou rater, tu sais, c'est assez terrible de se poser cette question-là. Je pense que le fait même de se poser la question est problématique. Mais moi, ce serait sans doute la privation des libertés. Et que pousser les autres à penser et à agir par soi-même, c'est une mission, c'est une culture, peu importe comment on l'appelle, qui me nourrit vraiment de l'intérieur. Ça me fait du bien quand je vois que l'autre se détache et peut vivre sa propre vie, quoi. Il est lui-même. Voilà. Pour répondre simplement, je dirais ça.
Ok. Et donc, la mission que tu t'es donnée, c'est de permettre aux gens de vivre avec un maximum de liberté. Ça va être intéressant dans le contexte du management, évidemment, puisqu'il y a cette notion quand même de hiérarchie dans l'entreprise. Et justement, à propos du management, et puis peut-être de ta vision du monde en général, c'est quoi ta grande idée ?
Par rapport au management, précisément, ouais. Ça va être ma grande idée. Alors, c'est présomptueux hein, de dire que j'ai trouvé quelque chose, mais il me semble que l'étude, en fait, des grands principes qui s'imposent à nous, les grands principes du vivant, les grands principes de la physique, les grands principes de la physique quantique, l'histoire des sciences, comme on dit. Alors la science des sciences, c'est l'épistémologie, donc c'est-à-dire l'étude des sciences, nous permettent d'avoir des billes de compréhension sur ce qu'il ne faudrait pas faire et ce qu'il faudrait faire dans notre quotidien et vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et évidemment, dans ce relationnel, ce lien à l'autre, il va y avoir tout le monde de l'entreprise, bien entendu. C'est-à-dire, comment tu manages une équipe, comment tu l'encadres. Et avec tout ce que ça comporte de, bon, je pose un cadre sur des gens. Mm. C'est-à-dire que vraiment, il y a une grosse responsabilité sur moi-même d'en tirer le meilleur parti, qu'ils soient, eux, épanouis, pour être productif et qu'on avance tous dans la même direction. Donc, vraiment, le manager, moi j'ai été manager au Japon, donc dans une autre culture que la mienne, c'est vraiment, vraiment une position qui n'est pas simple. Maintenant, je suis directeur d'un centre de formation, bon, bah, c'est toujours un nouveau challenge à renouveler. Comment je mets le degré de liberté derrière ça? Mais il y a des choses, pour répondre, pour retomber sur mes pieds et répondre vraiment précisément à ta question, des choses que je ne remets jamais en question, c'est je dois respecter les principes biologiques, les principes du vivant, etc. Ce qui veut dire que jamais je vais imposer aux gens de rester 8 heures assis. C'est pas possible pour moi. Toutes les 90 minutes, on met du mouvement, on bouge, on communique aussi. Jamais je vais laisser quelqu'un que je vois depuis quelques jours un peu muet, un peu dans son coin, sans communication. Tout ça, tu vois, qui est un peu, qu'on pourrait dire, du bon sens, comme nous diraient nos grands-mères, ça, pour moi, ça doit pas bouger. On peut pas transiger avec ça, quoi. C'est les principes, ça s'impose à nous. Par contre, les règles, c'est ce qu'on s'impose à soi-même. Okay. Et là, chacun va devoir trouver sa propre règle. C'est comme c'est pour l'alimentation. On essaie toujours de te vendre le régime machin chouette, le régime truc. Alors qu'il faut vraiment, on le sait très bien, que ça soit adapté à ta personne, à ton âge, à ton sexe, à ta pratique sportive, à ton biotope intestinal. Enfin, trop de paramètres. Donc, il faut individualiser les choses. Donc, on doit trouver ses propres règles, mais sans jamais toucher aux principes.
Voilà. Ok. Les principes sont au-dessus des règles.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous te présenter, en fait, nous dire un petit peu d'où tu viens, vers quoi tu vas, ton expérience, et puis ce vers quoi tu t'orientes, puis peut-être tes motivations, en fait, pourquoi tout ça, ça t'a intéressé, ça m'intéresse aussi, pour mieux te connaître, on ne se connaît pas très bien. On
ben, bien sûr.
En relation par un ami commun.
Ouais, on embrasse évidemment Jérémy Coron, hein, ouais. qui a permis cette mise en relation. On a eu des échanges déjà sur son podcast qui étaient passionnants, donc je te remercie vraiment pour cet entretien maintenant du jour. Donc, je suis Pierre Dufraisse, j'ai 36 ans. Je suis né à Avignon, je suis le dernier d'une famille de 5 personnes, où il n'en reste plus que 4, parce que j'ai perdu mon papa à 25 ans, et je dis toujours ça parce que c'est important en fait dans mon parcours de vie, c'était un moment assez pivot. Un autre moment pivot, c'est que très rapidement je me suis rendu compte à quel point les contraintes et les épreuves pouvaient nous transformer. C'est-à-dire que vivant dans un cocon assez, familial assez, comment dire, fermé, très proche les uns des autres, je me suis vite rendu compte, petit, que ça allait brider, en fait, mon accès au monde et mon épanouissement. C'est beau d'avoir des gens qui nous aiment, mais quand c'est trop pressant et quand c'est trop collé, bon, voilà, il y a des limitations.
Il y avait trop de sécurité ou trop de confort ou...
Alors, oui et oui. Et pas assez d'imprévus, comme on aime en parler dans l'antifragilité qu'on affectionne tous les deux, et pas assez de volatilité, quoi. Et je voyais bien que si je partais loin de la famille, loin de la maison longtemps, pour moi c'était désagréable et c'était une grosse épreuve. Mais je me suis dit, tu vas pas vivre comme ça toute ta vie. Vers mes 17 ans, passionné de culture japonaise, je me suis mis à apprendre la langue japonaise et je me suis dirigé vers des études de langue. Langue et business, pour ceux qui connaissent, LEA donc. Oui. Et je suis parti, j'ai eu la chance de partir un an en université japonaise à Nagoya, et après j'y ai vécu 7 ans, et quand je suis parti un an à l'autre bout de la planète, je me suis vraiment dit, tu vas voir, ça va te changer, c'est pas ça va t'améliorer ou tu vas devenir plus intelligent, tu vas devenir plus ouvert d'esprit ou quoi, c'est tu vas devenir quelqu'un d'autre. Mmh. Et ça, ce fait de se mettre dans un inconfort qui était terrible pour moi, hein, partir à un an loin de la famille, c'était vraiment, vraiment l'épreuve. J'étais certain que ça allait me changer de l'intérieur. Et ça, je trouvais ça assez fabuleux. Peut-être parce que j'étais nourri par les contes, tu sais, les récits. J'aime beaucoup le Camelot, le roi Arthur. J'aime beaucoup l'Iliade et l'Odyssée. Ces héros qui partent à l'aventure et qui reviennent transformés. Peut-être que j'avais ça en tête, tu vois. Et donc, c'est ce qui s'est passé. La vie au Japon était très, très enrichissante. Et maintenant, j'ai fait, en fait, de cette... en biologie, ça s'appelle l'hormèse, mais de manière plus générale, c'est l'antifragilité dont on parle. Okay. C'est-à-dire le fait de sortir de sa zone de confort, aller faire en sorte que son environnement reste toujours plus ou moins volatile et hasardeux. On sait maintenant que ça nous bénéficie. Mm-hmm. Et ben, cette transmission-là, elle est assez centrale, en fait, dans ce que je transmets. Donc, à mes 25 ans, donc, comme j'ai dit, j'ai eu pas mal de pertes dans ma famille, en fait. Donc, des grosses maladies, leucémie, cancer, etc., crise d'épilepsie. J'ai perdu le papa, la tante, tout ça. Et quand je repense, en fait, à même mon enfance, la mort et les maladies ont toujours été un peu présentes. C'est-à-dire, les grands-pères, les grands-parents, je les ai pas trop connus, sont vite partis. Tout ça m'a fait réfléchir par rapport à la prévention. Mmh. C'est-à-dire, on connaît l'intérêt de la médecine, mais c'est vraiment pas pour critiquer quoi que ce soit. Mais la médecine allopathique, donc, qu'on connaît, le médecin généraliste, les médicaments, etc., c'est très bien au moment de la maladie. Ouais. Moi, je me suis dit, mais comment on fait pour pas que ça advienne. Voilà. Et donc, là, ce qui s'est, voilà, très rapidement dans mes recherches, je suis tombé sur la naturopathie, qui est l'art en fait d'aménager son environnement pour justement qu'il n'y ait pas de désordre, de déséquilibre intérieur. Ce qui veut dire apprendre la nutrition, apprendre la préparation physique, apprendre la préparation mentale, la respiration, et en fait, voilà, tout ce qui constitue la compréhension d'un quotidien épanoui. Et qui permet donc la prévention de 90% des maladies, quoi. Voilà, je me suis dirigé vers ça, j'ai fait une formation, j'ai pratiqué, j'ai eu un cabinet pendant 5 ans, et j'ai ouvert des chaînes YouTube et des podcasts, etc. Et très rapidement, des corps médicaux comme, et paramédicaux comme les infirmiers, les infirmières, les ostéos, les kinés, etc., me disaient, mais ça c'est génial, par exemple la nutrition, j'y connais rien, forme-moi. Ou bien la respiration, je vois bien que ça permet une gestion émotionnelle et du stress, ça aussi j'aimerais me former. Et donc on m'a on m'a fait la remarque que ma pédagogie et ce que je transmettais était intéressant, et l'aboutissement en fait de tout ça, ça a été la création du centre, Centre Naturopathie Hormes, qui est mon centre de formation pour adultes et professionnels.
Ok. Et en fait, il y a une question qui m'est venue, peut-être qui est personnelle, mais je la pose quand même. En fait, au départ, tu t'es intéressé à toute cette science du vivant et puis du prendre soin de soi, en fait, finalement. Au départ, parce que toi, tu avais peur de subir le même destin que les membres, certains membres de ta famille. Ou est-ce que c'était une vocation, tu faisais ça pour aider les autres?
C'est rigolo, on ne m'a jamais posé cette question. Je te remercie de la poser. Ma propre condition ne m'a jamais, en quelque façon, inquiété. D'accord. Vraiment, c'était... et c'est même pas, en fait, pour la personne malade. C'est-à-dire que mon père, quand il a eu cette leucémie, ça a été 3 ans de chambre stérile et... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la chambre stérile, ça veut dire que la personne subissant des chimiothérapies, des radiothérapies, des greffes de moelle osseuse, on a tout greffé à mon père, de toute façon, des greffes de cellules souches, d'embryons de bébés, enfin bref. On éteint son système immunitaire, donc on fait une immunosuppression. Donc c'est pour ça qu'on voit les personnes qui perdent les cheveux, qui perdent tout, qui deviennent rachitiques. Et on les place dans des chambres stériles, et quand on va les voir... Il faut vraiment qu'on se désinfecte de la tête aux pieds, qu'on mette des charlottes, des masques, etc. Ça, pendant 2-3 ans, c'est très, 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 très long. De voir quelqu'un que l'on aime profondément souffrir et d'être incapable de l'aider, toujours dans cette situation de bah, « je suis incapable d'aider, je peux rien faire » et t'attends, comme ça, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, etc. En fait, c'est pas que j'en voulais à mon père, c'est que au bout d'un moment, t'as envie de dire aux gens « rendez-vous compte que si vous prenez pas soin de vous, tout votre entourage, toute votre famille va être triste et terrible, se sentir terrible pendant des années. Vous, ok, vous subissez la maladie, c'est terrible. Mais rendez-vous compte de l'impact, en fait. Parce que, sinon, on pense que prendre soin de soi, c'est égoïste. Et pour moi, prendre soin de soi, c'est le plus haut taux d'altruisme. Donc, on doit passer en premier. C'est-à-dire, dans l'ordre de priorité, passer en premier. Soignez votre nourriture, soignez votre mouvement, soignez votre respiration. Sinon, les gens que vous aimez, ils vont en pâtir, ils vont être tristes pour vous. Et ça, dans les regards, c'est terrible. C'est terrible. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'était me dire que j'allais transmettre des clés aux gens pour qu'il n'y ait pas ce genre de situation-là. Et je pensais surtout aux familles, en fait. Et c'était pas « je vais apprendre pour moi rester en bonne santé ». C'est plutôt « comment je fais pour que les familles ne connaissent pas ce que nous, on a connu dans ma famille ?» C'est-à-dire beaucoup de tristesse et d'impuissance.
Un parallèle peut-être qu'on peut faire avec le management, c'est un manager qui ne prend pas soin de lui, c'est-à-dire qu'effectivement, qui ne fait pas passer sa santé avant tout. Ouais. En tout cas, un certain niveau de santé mentale, physique, etc. Non seulement ce n'est pas bon pour lui, mais il le fait subir probablement à son entourage personnel et aussi il le fait subir à ses collaborateurs. Et voilà, à un niveau divers, mais déjà en étant de ce côté-là pas forcément très exemplaire, et en les incitant par mimétisme ou par désir de plaire à se mettre dans la même situation, Bien sûr. Et puis, quelqu'un qui est pas, qui va pas bien, qui est pas en bonne santé mentale ou physique, quand il manage, il est pas toujours au mieux de ce qu'on peut faire en termes de management. Il est souvent irritable, il est souvent stressé, il est souvent négatif, il est souvent, il se met lui-même la pression, donc il met la pression aux autres. Il est souvent angoissé, donc il angoisse les autres aussi. Donc, tu vois, je pense que ce que tu dis, ça peut résonner aussi sur les gens qui nous écoutent, qui peuvent se dire non, mais c'est pas forcément pour vous, ne le faites pas que pour vous, faites-le aussi pour votre équipe, votre environnement et donc votre équipe.
Ah, tout à fait, je te rejoins tout à fait. Le monde de l'entreprise, de toute façon, ça devient très vite une grande famille. Il y a des, ouais. Il y a des projections. Le manager ou le chef d'entreprise, très vite, on projette la figure paternelle ou maternelle. Donc, évidemment, vous allez rayonner ce que vous êtes. Et quelqu'un qui est pas en bonne santé, qui est surchargé de caféine, qui est colérique ou quoi, comment voulez-vous que ça instaure une culture d'entreprise saine ? Pas possible.
C'est sûr. Voilà. Ça paraît évident et pourtant.
C'est sûr.
Alors, si on rentre, je dirais, dans la partie peut-être un peu ton domaine, le domaine que tu as choisi, qui est celui des sciences du vivant et de l'épistémologie. Donc j'ai appris une définition. Donc l'épistémologie, c'est l'étude des sciences. Si j'ai bien suivi, j'ai appris un autre mot, l'hormèse. Je ne connais pas du tout ce mot-là. Apparemment, c'est proche de l'antifragilité. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être commencer peut-être par poser un petit peu les bases sans rentrer, sans être trop technique, mais nous dire un petit peu les concepts clés, les méthodologies que tu utilises dans ta pratique.
Bien sûr. Je pense que dans toutes tes transmissions, la plupart, en tout cas, tu parles souvent de l'antifragilité sur tes podcasts et dans tes émissions. Donc l'auditoire, sans doute, connaît un petit peu la transmission de Nassim Nicholas Taleb à travers ce concept. Taleb, dans son livre, parle d'hormèse, ce terme-là que tu as découvert, pour ce qui est de la biologie, en fait, donc oui. Des sciences du vivant. Et l'hormèse, en fait, c'est exactement la même chose que l'antifragilité, mais uniquement pour les organismes vivants, c'est-à-dire... ce thème hormèse, il a été estampillé par Hugo Schulz en 1888, qui était un toxicologue, en fait, allemand, et qui élevait des levures, donc des petits champignons, et il mettait, quand il s'était rendu compte que s'il mettait une petite dose de poison, ça faisait proliférer les levures, donc les organismes vivants, mais beaucoup de poison tuait les levures. Okay. Donc, une petite dose d'un stress stimule la croissance de l'organisme, une grosse dose de stress le tue. On est exactement dans l'antifragilité, c'est-à-dire tu reçois un choc, tu reçois un stress, et ça peut te faire grandir, en fait. Tu peux acquérir quelque chose de nouveau. Et en fait, toute notre biologie, c'est-à-dire notre système immunitaire, notre système osseux, notre système hormonal, notre système musculaire, et ça on sait bien parce que c'est apparent. On voit bien que les gens qui vont à la salle de muscu, ils peuvent construire ce qu'on appelle une surcompensation positive suite à un stress qui est « je pousse de la fonte ». Donc, pousser de la fonte, ça fait stresser l'organisme, c'est... voilà, si on ne sait pas ce qui se passe, et que tu regardes à l'intérieur du corps, tu peux penser que ta personne fait un arrêt cardiaque, quoi. En fait, tu stimules un arrêt cardiaque, parce que c'est le cœur bat à la chanade, t'as tous les signaux hormonaux qui sont partis dans les étoiles. Bon, tu dis, la personne, elle va... Voilà, elle va passer, quoi. Ben non, en fait, c'est volontaire, tu te mets volontairement dans un état de stress, parce que tu sais que derrière, si tu te reposes bien, que tu manges bien, que tu dors bien, tu t'améliores. Et donc l'hormèse est centrale pour moi dans ma transmission, parce que ce principe de difficulté de l'épreuve qui nous fait grandir, il est aussi mental. C'est-à-dire, on sait très bien que si tu bûches sur un nouveau concept, tu lis un livre qui est difficile, si tu te forces à aller jusqu'au bout, à prendre des notes, etc., tu vas acquérir une nouvelle connaissance. Et ça, on le sait par la plasticité neuronale, c'est-à-dire je crée de nouvelles connexions dans le cerveau. Et tout répond sur ce principe de surcompensation positive, c'est-à-dire de gain, quoi, d'amélioration par rapport à un stress. Donc voilà, ça c'est assez central dans ma démarche. L'épistémologie, l'étude de l'histoire des sciences ou de la science des sciences, c'est-à-dire comment on a su ce que l'on sait. Comment on a appris que la Terre était ronde, que l'attraction terrestre, la pesanteur, ou la gravité, quoi. C'est pas une force, mais c'est une déformation de l'espace-temps, c'est-à-dire comment on est passé de Newton à Einstein. Comment on a découvert la physique quantique et quelles sont les leçons à en tirer. Tout ça, en fait, c'est des aventures humaines. C'est-à-dire, t'as des leçons, là, vraiment des leçons de vie. C'est les grands chercheurs de la physique quantique comme Schrödinger, comme Heisenberg et d'autres. Tu lis leur biographie, mais c'est incroyable à lire. C'est incroyable parce qu'ils partent dans des domaines comme ça, à l'aventure. Ils tentent des trucs, mais ils tentaient tellement des trucs dingues. C'est comme, tu vois, si je te dis, t'essayes de comprendre ce que c'est un cheval. Et pour comprendre ce que c'est un cheval, tu veux te dire, bon allez, j'imagine que le cheval, il a des ailes et il vole. Je sais que c'est faux, mais allez, je ferme les yeux et je l'écris sur ma feuille comme ça. Et ils tentaient des trucs comme ça, tu vois, conceptuels, bon, c'était au niveau mathématique, mais aussi qui leur paraissaient complètement dingues comme ça, tu vois. Ils se mettaient volontairement dans l'inconfort, se dire, bon, je fais n'importe quoi, mais voyons. Et là, bam, ça tombe juste. Je dis, punaise, ça tombe juste. Parce que, en fait, l'histoire de la physique quantique, c'est que, comme on est rentré dans le niveau subatomique, au niveau des molécules, les règles de notre échelle ne s'appliquent plus. Et là, d'un coup, tu peux avoir des chevaux avec des ailes. Mmh. Et ça, mentalement, ça, c'est vraiment de l'hormèse mentale, pour le coup. C'est vraiment, tu te dis, punaise, je vais me mettre dans un inconfort terrible, parce que conceptuellement, je l'accepte pas. Mais je vais aller voir quand même, je vais aller gratter là où ça fait mal. Et enfin bref, l'histoire des sciences, c'est vraiment des leçons, en fait. Des leçons pour éclairer notre... pour bien nettoyer les lunettes à travers lesquelles on regarde le monde. Et ça, ne plus être dans le brouillard, c'est très rassurant, en fait, pour le cerveau humain. Et ça fait vraiment du bien de comprendre le monde qui nous entoure. Mais aussi pour en tirer des leçons sur sa propre démarche, en fait, son propre chemin de vie. Voilà, donc épistémologie et hormèse, ouais, c'est vrai que c'est au centre de ma façon de faire.
Alors, du coup, moi, quand j'entends ça, ça m'intéresse de savoir l'influence sur le management, mais avant, il y a un truc qui me... Tu vois, ça fait naître une pensée chez moi, c'est... Je suis en train de me dire, mais en fait, le progrès de la société, est-ce que finalement, il nous empêche pas, il nous isole pas, justement, par rapport à tous ces petits chocs qui ont fait, depuis toujours, que c'était notre manière de nous adapter, de nous renforcer. Je vais dire nous renforcer d'une manière générale, de nous adapter à notre environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un monde où... Alors, le progrès, ça a toujours été un petit peu ça. Je veux dire, avant, on se déplaçait à pied, puis à un moment, on a trouvé que c'était fatigant, donc on est monté sur un cheval, puis après, on s'est dit, c'est pas terrible, donc parce qu'on subit les intempéries, donc on va avoir une voiture tirée par des chevaux, puis après, on s'est dit, c'est pas pratique, les chevaux, ça pue, il faut leur donner à manger, donc on a inventé les voitures, etc. C'est le sens du progrès. Du coup, je veux pas être moraliste ni trop parler du goût de l'effort au niveau moral, mais quelque part, est-ce qu'on n'a pas perdu l'habitude, justement, de soumettre notre pensée, notre corps, notre physiologie, etc., à des épreuves pour qu'elles puissent s'adapter ?
Ah là là.
Parce que, tu vois, il y a un truc dont j'entends parler un peu sur YouTube de temps en temps et sur le web, et moi, ça me parle pas trop, c'est l'histoire de prendre des douches froides et des trucs comme ça. Ça me tente moyen. Mais c'est comme si, tout d'un coup, on se disait, ouais, mais ça va pas. Maintenant, on est tellement dans le confort, avec une température régulée en permanence, aucun effort à produire, on se fait livrer tout, etc., que tiens, on va prendre une douche froide, parce que ça va nous... Alors que quelquefois, il suffit de sortir en hiver, et on a froid aussi, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que... on a une espèce de réflexe de se dire, mais ouais, mais il faut quand même qu'on fasse des efforts dans notre quotidien, sinon on va se ramollir, etc., etc.
Ah là là, c'est tellement juste ce que tu dis. Parce que moi j'ai un regard qui est sans doute, qui est ce que tu viens de dire, en fait, hein, très abrupt par rapport à la société actuelle. C'est que je pense qu'il y a eu un gros shift pendant les 30 Glorieuses, après-guerre. C'est-à-dire que tu sais, comme l'adage le dit, les temps durs créent des gens forts, et les gens forts créent des temps faciles, et les temps faciles créent des gens faibles. Okay. Je pense qu'on a connu les deux guerres mondiales, qui étaient des temps très très durs, et par peur, en fait, que ces temps reviennent, nos arrière-grands-parents, et sans doute plus avant, et sans doute aussi nos grands-parents, ont voulu créer une société simple, facile en tout cas, où le confort était ce qu'on recherchait comme objectif. Alors qu'avant, sans doute que le but du... Et je vais dire ça sans connotation péjorative, hein, mais le but du paysan, le but du travailleur qui travaille sa terre et qui est chez lui dans son village ou quoi, ou même en ville, hein, mais avant, et sans doute il y a avant-guerre, c'était de servir le bien commun. Et le bien commun, c'était sa famille d'abord. C'était de s'engager pour son village, pour sa ville, voire pour sa patrie. C'était servir, en fait. On n'était pas du tout dans une recherche de confort, mais plus dans l'envie de donner du sens à sa vie et que ça s'inscrive dans quelque chose qui est plus grand que nous. Il me semble, hein, c'est ma vision des choses. Et que, avec les Trente Glorieuses et la venue de... tu sais, les choses qui ont révolutionné le monde, c'est l'électroménager. Hein, on le sait bien que l'arrivée du c'est bête, hein, mais l'arrivée du lave-linge, l'arrivée de la télévision, l'arrivée du sèche-linge, l'arrivée de tout ça dans notre quotidien, c'était, et de la voiture ensuite, du chauffage, tout ça, de l'eau chaude, c'était, on vous rend la vie plus confortable, et c'est ça, et quand vous avez plus de confort, ça veut dire que vous avez une place plus haute dans la société. Alors qu'avant, c'était pas ça. C'est-à-dire, si vous êtes le chef du village, le forgeron, le clergé, etc., le professeur à l'école, ça, c'était valorisé. Votre fonction, en fait, dans la société est valorisée. Pas ce que vous avez, pas vos avoirs, en fait. Je dépeins une chose avec des gros pinceaux, hein, je prends des raccourcis, mais ça nous pousse, en fait, ça a poussé, en tout cas, nos comportements contemporains à vouloir rechercher le confort comme réussite. C'est-à-dire, c'est l'objectif principal, c'est que je puisse ne plus avoir de moments inconfortables dans mon quotidien. C'est-à-dire que j'ai plus froid, comme tu l'as très bien dit. J'ai plus froid, j'ai plus chaud. J'ai toujours chez moi une température constante entre 19 et 22 degrés. J'ai pas besoin de me déplacer, j'ai ma voiture. J'ai pas besoin. Voilà. On enlève l'inconfort.
Je suis en télétravail.
Ouais, c'est ça.
J'ai même plus besoin d'aller au bureau.
Exactement. Les trottinettes électriques. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de marcher. Ouais. Et ça, c'est, on considère ça comme un progrès, comme une avancée. Ouais. Pour moi, c'est une régression. C'est pas un progrès. Parce que on a vraiment un véhicule terrestre qui s'appelle le corps humain, qui est capable de faire des choses fabuleuses. Et surtout, il y a du bonheur, en fait, à trouver et de la joie dans l'inconfortable. Dans l'épreuve qu'on... Et tu as parlé du goût de l'effort, mais c'est exactement ça.
Une fierté même. Une fierté.
Mais bien sûr.
D'avoir... qui on écoute sur les podcasts, qui on admire, qui on lit dans les romans, c'est plutôt des gens qui ont surmonté des épreuves. Qui,
mais bien sûr.
Je veux dire, la personne qui a vécu une vie complètement confortable et qui finalement a réussi... plus ou moins bien éviter les efforts au fur et à mesure, on va pas tellement en écrire un bouquin. Donc quelque part, je pense que quand tu vis comme ça, tu dois, enfin, je pense qu'il doit y avoir un grand vide qui s'installe, et qui est peut-être la source de pas mal de problèmes. Et j'allais dire, j'allais le relier tout à l'heure, tu disais que ce qui te choqué dans la médecine moderne, c'est qu'en fait, elle traitait les gens qui étaient déjà malades et elle s'occupait pas de comment faire pour qu'ils tombent pas malades. Et je pense que... Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on vit plus longtemps qu'avant, mais quelquefois, j'ai envie de dire, dans quel état ?
Oui.
Il y a la notion de durée de vie, puis la notion, je sais pas comment on dit, de comment tu... comment tu vieillis, quoi. Et je pense que y a un lien, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, des gens qui ont perdu toute leur système de défense, etc., forcément, ils vieillissent mal, et donc la dernière partie de leur vie, elle sera probablement conditionnée au nombre de médicaments, de traitements et de choses qu'on pourra leur injecter et qui, à nouveau, ne dépendront pas d'elles. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une fin de vie, en tout cas, globalement, une vie et une fin de vie qui soit des plus agréables. Bref, je ne veux pas qu'on s'éloigne trop du sujet du management, mais en management, je me demande si ce n'est pas une des grandes causes du désengagement des collaborateurs qu'on connaît aujourd'hui. Le fait qu'on ait perdu un petit peu ce que tu disais, la nécessité d'avoir un sens qui va nous mobiliser. Et c'est ça qui est difficile, je pense, dans les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, on dit, je comprends pas, les gens sont déprimés, ils sont démotivés, etc. Et ils sont désengagés, ça s'en fout, en fait, finalement. Et je pense que c'est pas que de la faute des personnels même, ni des entreprises. C'est aussi, je pense, quelque chose d'assez fondamental qui se passe dans notre société. Et je pense que c'est un des challenges. En quoi ou pourquoi cette compréhension des sciences du vivant et de l'épistémologie, ça peut ou ça doit influencer notre manière de diriger nos entreprises et peut-être aussi la manière de manager les gens, en fait, finalement. On évoque le contexte, mais finalement, est-ce qu'il y a des leçons à tirer des découvertes ou du travail que tu fais qu'on pourrait appliquer en management? On en a parlé un petit peu, mais comment on pourrait faire le lien? Est-ce que toi, tu as des...
Ouais, écoute... C'est très simple, hein. C'est une fois qu'on a compris les grands principes du vivant, on va plus du tout demander attendre des personnes qu'ils fournissent un travail aliénant, sans mouvement, sans contact avec la nature. C'est-à-dire, tu me donnes une équipe à manager, c'est le cas. Hein. Là, j'ai une entreprise à manager qui est vraiment une PME, hein, mais voilà, si tu me donnes 10 personnes à manager comme ça, je vais leur transmettre une culture d'entreprise, comme tu le dirais très bien. C'est-à-dire pas une vision, mais si on veut qu'ils soient motivés, il faut qu'ils ressentent que c'est leur entreprise. Ouais. Ils bossent pas pour moi, c'est leur entreprise. Et ils s'engagent pas pour un salaire, parce que s'ils s'engagent pour un salaire, c'est-à-dire qu'ils recherchent le confort. C'est toujours la même chose. Donc on tombe dans le piège qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc ils vont pas fournir des efforts pour vous, pour l'entreprise. Ils vont fournir des efforts pour le salaire. Donc moindre effort. C'est-à-dire j'ai juste à attendre la fin du mois. Donc je vais pas m'engager de la même manière. Avoir une culture entreprise, ça permet en fait le goût de l'effort. Ensuite, tu me donnes 10 personnes, mais on va bosser 90 minutes, puis on va faire une réunion au parc. On va aller voir la nature. On va se mettre dans d'autres situations. Et qu'est-ce que c'est le parc? C'est complètement volatile. Dans le parc, il y a du bruit. Il y a des enfants. Il y a un ballon de foot qui va nous arriver sur la tronche, qui va nous faire rire, qui va décomplexifier une situation où il y avait peut-être un peu une tension entre deux collaborateurs. Mais parce qu'il y a eu un enfant qui est venu jouer entre nous, il y a eu un sourire et finalement, le dialogue se passe. Un parc, c'est volatile. C'est ça qu'on veut. Si vous bossez toujours au même endroit, c'est plus volatile. Vous suroptimisez tout. Faut vraiment penser au-delà du team building, quoi. C'est pas je fais une semaine de team building tous les trimestres pour que tout le monde s'entende bien. Non, ça marchera pas comme ça. Au Japon, quand je vivais là-bas, on nous imposait, tu vois, c'est pas qu'on nous imposait, mais c'était dans la culture, on savait très bien que vendredi soir, on allait tous boire des coups, voire on allait tous se torcher, en fait, ensemble, parce que c'était nécessaire, en fait, à ce qu'on dise des conneries, à ce qu'on se lâche, à ce qu'on se connaisse mieux, etc. Et après, le lundi, on envoyait du lourd. Le Japon, ça m'a pris vraiment, vraiment, à m'inscrire dans le groupe, tu vois, à m'inscrire dans cette culture d'entreprise. Eux, ils vont trop loin. C'est-à-dire que il y a un effacement total de l'individualité. Et ça, c'est une dissolution de qui ils sont. Et c'est pour ça que c'est assez terrible. Par contre, ils sont dévoués corps et âme à leur entreprise, quoi. C'est leur bébé, c'est leur famille.
Très difficile à transposer dans notre société, hein, parce que ça ne va pas de soi, on va dire, pour nous, occidentaux ou européens.
Eh oui. Donc la nutrition, c'est-à-dire que si j'ai une cantine d'entreprise... Mais je vais pas leur faire manger des pâtes, du pain blanc, tout ça parce que j'ai appris la nutrition. Je sais ce que c'est. Je sais que les perturbateurs endocriniens peuvent complètement déréguler le système hormonal de mes collaborateurs si je leur fais manger. Rien ne sortira d'un sachet plastique. On fera du qualitatif, mais c'est obligatoire pour moi. Je vais m'adresser, en plus, surtout si vous êtes à la capitale, mais dans les grandes villes ou quoi, vous avez toujours un traiteur du coin qui travaille produits locaux, bio, qui va faire les choses bien. Et puis, on aurait des sorties culturelles, on aurait des temps de partage en cercle où, pareillement, on sortira du cadre des bureaux pour partager juste des retours sur la journée qui vient de se passer ou la semaine qui vient de se passer. Bref. Il faut qu'il y ait du lien humain, il faut qu'il y ait de la créativité, du hasard, du silence, des temps de repos et du mouvement. C'est-à-dire, toi comme moi, on sait très bien que quand on a un problème dans notre vie, il suffit qu'on aille prendre l'air et qu'on aille marcher 5 minutes pour que les choses s'éclairent et que « Ah ben oui, c'était ça la solution !» Alors que tu es en train de marcher et tu n'es pas du tout avec ta feuille blanche en train de bûcher sur le truc. Ça, c'est par exemple l'histoire des sciences qui m'a permis de le comprendre aussi. C'est-à-dire que Einstein, tous les pères fondateurs de la physique quantique, c'était des montagnards. Et il disait, on trouve les problèmes de nos, enfin la solution de nos problèmes mathématiques quand on va faire une randonnée. On le sait bien. C'est pas devant la feuille blanche. Tout est voilà, tout est complémentaire. Et tant que tu casses pas en fait cette dynamique du vivant qui est, je tente des choses, je tape dans des murs pour voir si c'est creux ou si c'est plein. J'ai un degré de liberté qui est maximal, mais une culture, c'est-à-dire il y a des trucs que je toucherai pas parce que c'est sacré. Tu vas tirer en fait le meilleur parti de la collaboration avec les autres. Vous allez vous mettre en lien. Et l'histoire du vivant en fait, c'est gagner en complexité par la mise en lien. Plus je peux me mettre en lien, plus je peux gagner en complexité pour arriver au fil de l'évolution à l'être humain, qui est quand même le plus haut taux de complexité des êtres vivants sur cette planète. Qu'est-ce que c'est l'être humain ? Ça a été des bactéries qui ont rencontré des organismes unicellulaires, qui sont mis en lien, qui ont construit quelque chose de plus complexe, etc. Et nous, on est pareil. Si on sait bien se mettre en lien, on peut gagner en complexité. Pour une entreprise, ça veut dire gagner en marché, gagner en chiffre d'affaires, gagner en taille, etc.
Nassim Taleb, il en parle un petit peu aussi dans Antifragile, ce dont tu parlais, qui est un petit peu faire des expériences, faire de la prise de risque. Mais il met, je le dis quand même, parce que il met quand même en avant que on est un groupe et que donc on ne peut pas prendre un risque qui pourrait détruire le groupe. C'est-à-dire que oui, de la prise de risque, mais de la prise de risque sur... tu sais, il parle de la stratégie des haltères, je sais pas si tu es familier avec ça, où il dit 90%, il en parle d'ailleurs aussi en placement boursier, etc., où il dit 90% de mes actions, ou plutôt de mes placements, sont des choses boring, c'est-à-dire ennuyeuses, où j'ai une petite rentabilité, mais elle tomberait, j'ai aucun risque. Par contre, je prends d'énormes risques sur 10% de mon capital parce que je peux perdre ces 10%. Mmh. Je pense que dans une entreprise, il faut aussi avoir ce réflexe de dire oui, « Attends, on va essayer des trucs, mais la règle, ça peut être « Oui, tu prends un risque, mais tu prends un risque où tu peux avoir un échec sans que ça ait de conséquence sur l'ensemble dans lequel tu vis. »
Exactement.
Et d'ailleurs, ça s'applique non seulement à une petite échelle sur une entreprise, un groupe humain, mais on pourrait aussi y réfléchir sur la planète. C'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais prendre des risques sur qui peuvent avoir des conséquences irréversibles à l'échelle de la planète, faudrait éviter de le faire quand même, parce que
c'est sûr.
Pas de retour en arrière sur ces risques.
Tu as bien raison, mais justement, ça me permet de rebondir parce que la stratégie de l'alter, c'est typiquement, vous prenez un risque, vous avez très peu à perdre, énormément à gagner.
C'est ça.
Et l'ingénieur de la Silicon Valley qui, dans son garage, développe un logiciel. Il met 3 mois à le développer, il bricole le truc. Mais au bout de 3 mois, il va le présenter à Microsoft. S'il réussit, il vend la licence 2 millions de dollars. S'il perd, il aura perdu rien du tout. Il aura perdu les 3 mois de travail dans son garage. Ça leur a coûté la perte. La prise de risque est vraiment très minime. Par contre, le gain potentiel, c'est exponentiel. C'est une asymptote positive qui part dans les étoiles. C'est ça, en fait. Les 10% de Taleb, faites un truc fou. Et là, dans notre quotidien, qu'est-ce que ça veut dire ? Je sors encore du cadre du management, mais pour nous, parce que tu l'as évoqué par rapport aux douches froides, ça veut dire vivez confortablement dans votre quotidien régulièrement, exposez-vous à la nature, au changement de saison régulièrement, mais une fois dans la semaine, allez faire un truc fou. Allez vous baigner dans la rivière gelée ou le lac gelé d'à côté. Et faites un truc fou. En fait, cassez les codes. Parce que ça va nourrir en fait 90% du temps restant. Et vous allez voir que ça va vous faire grandir sur tous les plans en fait de votre être. C'est ça en fait que ça veut dire.
Super intéressant. Ça veut dire aussi que on peut le retranscrire dans l'entreprise, c'est-à-dire que au niveau même d'un entrepreneur, c'est tu peux avoir une routine pour 90% de ton business.
Ouais.
Mais sur 10%, il faut que tu ailles faire des trucs qui paraissent débiles parce que c'est ces 10%-là qui sont en mesure de faire un saut à ton business.
Exactement.
C'est vrai aussi dans une entreprise sur les processus. Tu vois, au début, quand je lisais Antifragile et puis que je me disais, donc il faut prendre des risques, etc. Du coup, à un moment, Taleb, il a tout un passage sur la, la gestion en disant on cherche trop à faire des budgets, des machins, des trucs. Mmh. On se dit, ouais, donc faut travailler sans budget, sans process. Ça marche pas non plus. Moi, j'ai, dans certaines de mes entreprises, c'était trop le chaos. Ouais. Par contre, se dire, non, on a des processus. Ça gère 90% des cas ou 80% des cas. Par contre, dans 10 ou 20% des cas, allez, on y va, on le fait comme on le sent, etc. Et c'est ça qui va nous permettre d'améliorer nos processus. Exactement. Mmh. Comme le petit choc dont notre corps a besoin pour pouvoir se développer. C'est-à-dire que les chocs qu'on lui donne, c'est pas en permanence. Tu vas pas rester par moins 10 degrés en permanence. Tu vas y rester. Par contre, t'as un fonctionnement, je dirais, normal, mais t'as ce moment où tu t'exposes, où tu fais un effort qui est extrêmement fort, etc., parce que tu veux déclencher des adaptations de ton système qui ensuite va mieux fonctionner. C'est ça le principe. Et on peut retrouver ça en management, on peut retrouver ça dans une équipe. Après, c'est juste une question d'imagination.
Mmh, j'adore. Pardon, je termine juste sur ça.
Vas-y, je t'en prie.
Ouais. Ça me fait penser à, évidemment, encore une fois, l'étude des sciences et certains processus de la nature. Dans les fourmilières, on connaît tous, tu vois, elles ont toutes des rôles, les fourmis, ouais. Les ouvrières, etc. T'as des fourmis, en fait, tu sais, les fourmis, elles sont toujours à la queue leu-leu et t'as toujours l'impression qu'elles ont toutes leur rôle. Ça, c'est vraiment comme une entreprise, tu vois. T'as le secrétaire, t'as le machin, enfin bref, le chef d'entreprise, tout ça. Et ben, t'as des fourmis, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est sans doute 1%, hein, qui font n'importe quoi, qui remontent le sens du courant et qui poussent les autres, qui les emmerdent, tu vois, qui cassent la ligne. En fait, c'est les petits chocs qui permettent à tout le monde d'être aux aguets, en fait, et de se remettre dans la droite lignée. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment une leçon, c'est-à-dire, dans ton entreprise, faudrait que t'aies un gars, c'est un créatif pur, c'est un artiste, tu vois, c'est un fou furieux, il vit la nuit et tout, et tu le mets comme ça, boum, au milieu de tes collaborateurs, pour voir la perturbation que ça va créer, et le changement, en fait, que tout le monde va faire sur le focus dont il a besoin pour son entreprise, pour son travail, pardon, et ce qu'il va pouvoir prendre chez ce gars un peu farfelu. C'est-à-dire, ah, mais en fait, il a une super idée, là, hop, je prends ça. Et ça, oui, il s'inspire, tu vois, de gens comme ça. Mais moi, pour moi, c'est une leçon, en fait, de management.
Ça peut être quelqu'un de l'extérieur, ça peut être une expérience qu'on fait, un marché sur lequel on va, ou ça peut être chez chacun dans sa mission, parce que je trouve que c'est aussi intéressant à un niveau individuel.
Oui.
Un moment où, ouais, allez, je tente un truc, etc., et mon manager me le permet. Ouais. C'est vachement important. La seule règle, si on veut se rassurer en tant que manager, c'est la règle des 10%. Tu ne mets pas en risque l'ensemble de la société en faisant ce truc-là. Mais tu tentes un truc. Tu vas sur un marché, ce n'était pas prévu. La mission d'entreprise, c'est d'être dans le domaine de, je sais pas quoi, dans le marché A. Mais hop, tout d'un coup, tu vas dans le marché Z faire un truc. Et hop, ça marche. Et tout d'un coup, c'est comme ça que tu découvres un débouché. C'est le principe d'exploration aussi.
Exactement.
Il y a aussi un autre aspect dans ce que tu fais qui est intéressant. C'est aussi au niveau individuel, c'est-à-dire du développement, je dirais, de soi. Je ne sais pas si on peut dire du développement personnel, parce que maintenant, c'est un mot ça a tellement été utilisé que c'est peut-être c'est pas clair. La bonne... Mais c'est la connexion, tu parles souvent de la connexion de l'individu et de son environnement. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais ça m'intéresserait... que t'en parles, parce que on l'a rapidement évoqué avec Jérémy, mais on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout. Tu sais, je pense que j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont intéressés par le développement de leur potentiel. C'est-à-dire, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les managers, les chefs d'entreprise, etc. C'est comment je peux développer mon potentiel? Comment je peux être meilleur? Moi, on me dit souvent, mais comment je peux avoir plus d'énergie, être plus organisé, travailler plus en moins de temps, dormir moins? Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, il y a d'ailleurs tout un business autour de ça. Ça m'intéresse d'avoir ta vision là-dessus.
Alors oui, il y a toute une... comment dire, un effet de mode autour de ce qu'on appelle du biohack ou du hack. C'est-à-dire, comme en termes informatiques, on trouve un raccourci, quoi, un shortcut, une formule magique pour, comme tu l'as dit, moins dormir, être plus productif, etc. Moi, je vais citer uniquement mon ami qui est Idriss Aberkane, qui nous dit bien, quelqu'un d'épanoui est forcément productif. Quelqu'un qui est productif n'est pas forcément épanoui. Donc, il faut rentrer dans la case de qu'est-ce qui peut me rendre épanoui. Ça, si on rentre, si on fait cette case-là, la case départ, on est garanti que tout le reste du processus va être productif. C'est-à-dire que la personne qui kiffe son boulot, qui adore tout ce qu'elle fait, elle va en fait te pondre le meilleur des travails et toujours engagée dans la culture de l'entreprise. Donc il faut rentrer par cette case-là et pas par la case « comment je deviens plus productif ?» Tu vois, la question pour moi, elle doit se poser à l'inverse. C'est comment je peux être plus épanoui dans ce que je fais. Là, comme on l'a dit précédemment, les règles du vivant doivent s'imposer. C'est-à-dire que si tu dors pas, si tu t'envoies du café sur dose, tu vas bien comprendre que ça va tenir une semaine, après tu vas être miséreux et tu vas te sentir mal et tu vas être malade, etc. Donc ça peut pas marcher à l'envers. Donc on doit respecter quand même certains principes, dont pour comprendre l'importance d'aménager son environnement proche, voire lointain, c'est comprendre la science donc de la biologie, et notamment les travaux d'un grand chercheur qui est malheureusement décédé en 2001, un chercheur chilien mais qui parlait très bien français, si vous voulez regarder des conférences de lui, qui s'appelle Francisco Varela, qui s'appelait Varela. Et Varela et son mentor Maturana ont estampillé le terme de autopoïèse pour décrire en fait le comportement d'un organisme vivant. On voyait les organismes vivants avant eux, on les voyait comme individuels, c'est-à-dire certes l'animal mange les plantes qu'il a autour de lui ou mange d'autres animaux, mais bon, il vit dans un environnement, mais il est quand même à l'échelle individuelle, quoi. L'autopoïèse, ça veut dire auto, donc quelque chose qui peut se faire automatiquement, enfin de lui-même. Et poïèse, c'est vraiment pour la création. En fait, c'est un organisme qui co-détermine et qui co-crée son propre environnement. C'est-à-dire, à l'image de nos cellules, en fait, nos cellules qui prennent de ce qu'il y a à l'extérieur, les protéines qui se baladent, le glucose, etc., l'intègrent, fabriquent les gènes, fabriquent les organites, fabriquent tout ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule, et rejettent ce qui est nécessaire pour que l'environnement, les hormones, etc., perdure. En fait, un organisme vivant, ça prend soin de son environnement aussi. Et l'environnement a créé l'organisme vivant. Il a créé l'être humain, c'est grâce à l'environnement qu'on est là, mais aussi c'est grâce à nous, les êtres vivants, que l'environnement est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il y a une interconnexion, il y a une non-séparabilité entre les sujets et les objets, entre le monde et nous. Alors ça, ça paraît être des grandes phrases, mais dans les faits, c'est extrêmement vrai. Si je retire le tigre de la jungle, par exemple, c'est plus la jungle. C'est-à-dire, c'est la jungle moins le tigre. Le tigre, il a un rôle, en fait, de gestion, d'équilibre de tous les animaux et de toute la faune et la flore, que si je le retire, ben, la jungle, ce sera plus vraiment la même. Et ça risque de créer des déséquilibres. Et on le voit bien, nous, à notre échelle, comme on a fait des bêtises, en fait, en cultivant la terre, les animaux, etc. Avec, tu vois, j'habite moi dans les Hautes-Pyrénées. Le loup devient problématique parce qu'il attaque, en fait, les moutons, etc., les animaux. Mais l'intrusion, en fait, de l'homme et de la manière dont on a coupé les espaces verts, en fait, ça a créé, en fait, cette situation-là. Donc, il faudrait se poser des questions sur comment nous, en fait, on gère tout ça. Et en entreprise, c'est pareil. Encore une fois, pour parler du Japon, parce que je le connais bien, les 30 Glorieuses ont mis en exergue l'importance de l'environnement en entreprise parce que les Japonais pétaient des câbles, se suicidaient, et il y avait une santé en entreprise qui était terrible, exécrable. Et au vu du nombre de personnes qui tombaient malades et qui se suicidaient, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites donc sur l'impact de l'environnement visuel et des objets et des pièces, de l'exposition au soleil et de la nature, etc., dans le monde du travail. Et c'est au Japon qu'on a commencé à parler de biophilie, c'est-à-dire bio, la nature, et philie, c'est ce qu'on aime, c'est-à-dire comment, en fait, le fait de voir des arbres, un environnement naturel, etc., de respirer les essences qui sortent des plantes, etc., nous rendent, en fait, en bonne santé. Et que si tu coupes ça, si t'empêches tout ce contact avec la nature, tu crées des gens qui sont de plus en plus malades, physiquement, mentalement, etc. Donc il y a vraiment des leçons à tirer de notre intrication avec notre environnement, ne serait-ce, mais évidemment là c'est vraiment, je vous propose qu'une seule miette des implications qu'il y a, mais ne serait-ce que pour l'aménagement des bureaux et l'aménagement de l'entreprise en elle-même. C'est-à-dire quand vous faites venir les collaborateurs dans un endroit et que vous leur demandez de rester toute la journée dans cet endroit, attention à l'aménagement, quoi. C'est parce qu'on est à l'image, l'être humain est à l'image de son environnement.
Non, c'est tellement vrai. Moi, j'ai eu cette expérience. On a déménagé l'entreprise en 2018. Donc tout le monde on l'a fait en participatif par rapport pas au lieu, mais puisque le lieu était validé, c'était vraiment un lieu beaucoup mieux que l'ancien où il n'y avait pas de perspective, il n'y a pas de, tu vois, c'était vraiment une zone et là on est dans une zone à nouveau, mais on est en hauteur, donc on voit le ciel, on voit très très loin, malgré les entreprises qui sont implantées, on voit à travers, enfin, c'est assez ouvert sur l'extérieur, etc. Il y a de la verdure, etc. Mais ça a marché mieux au niveau relation entre les personnes et calme dans les bureaux et que n'importe quel team building, que n'importe quel séminaire que tu pourrais faire, parce que simplement il y avait plus d'espace, il y avait plus de vision sur l'extérieur, il y avait des moyens de s'échapper simplement en regardant, tu vois, je fais le mouvement de regarder par ma fenêtre parce que c'est une manière de te reposer que de regarder à un moment en dehors, etc. c'est très vrai et ok, c'est intéressant. Après l'environnement en entreprise, c'est aussi les relations entre les personnes, je pense.
Bien sûr.
Tu vois, quand tu parlais des gens, bon, ça c'est un extrême, hein, qui étaient tellement stressés au boulot qu'ils finissaient par en mourir, plutôt que d'essayer de trouver des hacks et des nouvelles choses pour en faire plus ou pour dormir moins, ou etc., une autre approche, ça peut être de baisser les facteurs de stress interne, de mauvais stress. Hein, moi je dis le bon stress c'est comme le cholestérol, alors je sais pas si c'est encore vrai d'ailleurs, si c'est un vrai, un mauvais ou un vrai, ça je sais pas, je suis pas calé en bio, mais en tout cas ouais, je pense qu'il y a un bon stress. Le bon stress, c'est celui qui te fait évoluer, celui sur lequel tu peux agir, qui te rend meilleur, et c'est vrai pour une entreprise. Puis t'as un mauvais stress qui est celui soit sur lequel tu peux rien faire et auquel on t'expose en permanence comme les médias adorent le faire, mais ça peut être aussi le stress. Tu vois, moi, dans une entreprise, je dis le bon stress, c'est celui qui vient de l'extérieur. Parce que celui-là, il va nous obliger à en fait, c'est un stimuli. C'est pas un vrai, c'est un stimuli qui va nous permettre de trouver des solutions, etc. Par contre, si on a un énorme stress à l'intérieur, c'est-à-dire si on s'aime pas, si on est dans l'ego pourri, dans des conditions pourries, qu'on est tous crevés, etc., on va générer du mauvais stress qui, celui-là, est forcément mauvais parce qu'en fait, il est totalement auto-centré et destructeur. Et voilà, tous ces trucs sur le potentiel. Alors, moi, je suis comme tout le monde. Si je trouve des manières de mieux fonctionner, faire du sport, etc., etc., je suis preneur et je prends et je fais. Parce que, ça, avant tout, ça me met en meilleure santé. Si je peux avoir des techniques pour gérer mes mails mieux qu'en me laissant envahir, etc., 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 je le fais aussi. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas le fondamental. Le fondamental, effectivement, c'est est-ce que mon environnement est déjà pro... Est-ce que je fais des choses qui m'épanouissent ? Je souscris 100% à ce que tu dis. Et ça doit être la recherche du manager. Comment tu peux faire en sorte que les missions de l'entreprise correspondent à chacun de tes collaborateurs, à une zone qui les intéresse, etc. Et pour ça, il faut bien connaître ses collaborateurs. Exactement. Et puis, effectivement, il y a l'environnement. Il y a ce que tu disais. Et l'environnement, c'est aussi les relations entre nous, quoi. Si on ne s'entend pas, ça va être compliqué, quoi.
Exactement. Plusieurs choses là, sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Taleb parle évidemment de la via negativa. Donc, que retirer quelque chose de négatif nous apporte plus de bénéfices que d'ajouter quelque chose de positif, qui nous semble en tout cas être positif. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, bon, on veut tous être plus performants, mieux fonctionner, etc. Mais en fait, pour exprimer notre plein potentiel, il faut d'abord s'intéresser à ce qui bride ce potentiel. Qu'est-ce qui l'empêche d'advenir ? Et là, encore une fois, l'épistémologie et l'étude des sciences nous donnent des très bonnes pistes de réflexion. C'est-à-dire que, par exemple, ce terme de stress, on voit bien qu'on l'emploie tous d'une manière un peu différente. Tu viens de nous donner ta définition. Je pense que tes collaborateurs pourraient me donner une autre définition. On voit bien qu'il est utilisé à tort et à travers, comme le cholestérol. Mais en fait, quand on s'intéresse à l'histoire de ce mot-là, c'est-à-dire comment la médecine en est arrivée à utiliser ce terme, ça nous donne en fait toutes les réponses. Okay. C'est-à-dire que on a eu dans le XXe siècle une étude véritablement des facteurs autres de la maladie que pouvaient être les virus et les bactéries. C'est-à-dire, est-ce que on peut ce que vit la personne dans son quotidien, c'est-à-dire une épreuve, un deuil, une situation stressante dans sa famille ou dans l'entreprise, etc., peut influencer l'état interne, c'est-à-dire les hormones, le système nerveux, etc., etc. Et on s'est intéressé à ça, en fait. Et le terme stress, en fait, il détermine, il décrit un état interne du corps. Ok. Donc, c'est pas... Il y a une erreur de sémantique quand on dit « Ah ouais, mon patron, c'est vraiment un stress pour moi. Okay. » Non, le patron, c'est ce qu'on appelle un stresseur. Donc, ce qui est externe à vous, c'est des stresseurs. Et là, il y en a de différentes natures. Donc, stresseurs purement psychologiques, stresseurs physiques. Si je vais dans le bain froid, avec des glaçons, à 0 degré, c'est un stresseur physique. Stresseur psychologique, bon ben, votre patron vous engueule, ou votre collaborateur vous insulte. Stresseur physique. Stresseur mental, pardon. Mais la réponse interne, c'est toujours le stress. Que ce soit un bain froid, que ce soit une immobilité sur votre chaise pendant toute la journée, ou que ce soit quelqu'un qui vous crie dessus, le corps ne sait répondre que... Il n'y a qu'un seul bouton pour le corps, hein, c'est stress. Et stress dans le corps, quand c'est chronique, quand c'est là installé depuis longtemps, c'est généralement, ça veut dire hormone cortisol. Cortisol, voilà. Il a un bouton, cortisol. C'est tout. Au début, il fait adrénaline un petit peu, mais après, il fait cortisol très rapidement. Si le cortisol, il est souvent là, c'est-à-dire si l'état de stress est souvent là, à cause de différents stresseurs, alors on va avoir une baisse de l'immunité, alors on va avoir tout un tas de dérèglements internes. Donc, la stratégie, ça va être de se dire, est-ce que je diminue les stresseurs, le nombre de stresseurs dans mon entreprise, ou est-ce que je joue sur la gestion du stress interne de mes collaborateurs ? Parce que tu peux très bien ne pas changer les stresseurs et apprendre à tes collaborateurs à faire des exercices de respiration, à faire de la méditation, etc. Mais tu joues pas du tout la même chose. Hein. Okay. Tu auras beaucoup plus de bénéfices à enlever les stresseurs, c'est-à-dire tu fais passer un sondage ou bien tu fais un rendez-vous trimestriel avec tes collaborateurs et tu les prends un par un et tu leur dis « Bon, voilà, dans l'environnement, est-ce qu'il y a des stresseurs, c'est-à-dire des sources de stress pour vous, etc. ?» Et la personne, il faut pas qu'elle te réponde « Ah oui, mais à l'intérieur, j'arrive pas à me calmer. » Non, je vous demande pas ça. Je vous demande qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement de l'entreprise qui vous fait stresser.
C'est quoi le déclencheur ?
C'est quoi le déclencheur, exactement ? Qui est tout le temps, un petit peu tout le temps là, etc. Et peut-être qu'elle va vous dire « Bon, bah oui, c'est ma relation avec Monique, parce que Monique, elle est pas sympa, etc. etc. » Bon, ok, là, on touche quelque chose. Mais c'est différent, tu vois, de faire un focus sur l'état interne et la gestion interne et l'état externe. Enfin, en tout cas, les facteurs stressants. Et le truc à retenir aussi, c'est qu'on a tous des stresseurs différents. Peut-être que Monique, c'est un stresseur pour Micheline, mais que pour Cédric... Alors lui, Cédric, Monique, c'est sa meilleure amie. Et peut-être que la musique aussi qu'on met dans l'entreprise, pour certains, ils adorent ça, pour d'autres, c'est un stresseur. Donc là, il faut individualiser. Et les stresseurs, donc, c'est à individualiser. L'état de stress, c'est chacun le sien. Et donc, on arrête, en fait, de mettre des cadres uniformes sur... Parce qu'on a vu que Apple faisait ça ou que Google faisait ça. Donc, on va faire pareil. Et t'instaure des outils comme ça ad hoc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment s'intéresser à l'humain. Et donc, tu vois, revenir toujours à comment on sait comment on a appris tout ça, quels sont les principes sous-jacents de la physiologie pour, en fait, en découler des règles et des comportements. Voilà.
Alors après, tu peux faire une étude, puis dans ce qu'on va te remonter, il y a des choses sur lesquelles tu peux agir, effectivement. Puis il y a des choses sur lesquelles tu peux pas agir ou peut-être sur lesquelles, moi j'ai envie de dire, il faut pas agir. Parce que, je reboucle, si t'es collaborateur ou si tu penses que tes collaborateurs, ce qu'il faut c'est leur éviter les stresseurs, je vais plus dire le stress maintenant, moi je pense qu'il y a des stresseurs qui sont super utiles. D'ailleurs, c'est le principe de l'antifragilité.
Bien sûr.
Exemple, si tu les coupes des informations, si à chaque fois que quelqu'un remonte du terrain, qu'on est en train de se faire bouffer par un des concurrents, et qu'à chaque fois, toi, en tant que dirigeant ou en tant que manager, tu fais taire cette personne en disant « Non mais taisez-vous, je veux plus vous entendre dire ça en réunion, vous allez stresser tout le monde, parce que toi, ça te stresse, ou que devant tout le monde, tu dis, non, mais, écoutez, Jean-Pierre, arrêtez, on n'a pas peur, qu'est-ce que c'est, vous êtes une chochotte, etc., etc. En fait, ici, là, tu loupes une opportunité, certainement, de faire que ton entreprise s'adapte.
Oui.
Et dans ces cas-là, je pense que... Mais je te soumets la question, parce que là l'idée, c'est pas de changer le stresseur. C'est peut-être de travailler sur la réaction au stress.
Exactement.
C'est-à-dire d'apprendre aux gens quoi faire de cette information. Parce qu'effectivement, si tu leur fous l'info... J'avais fait un podcast il y a longtemps, qui s'appelle « Le sens de l'urgence », qui était tiré d'un bouquin de Kotter, qui est un consultant d'entreprise, qui disait que dans les grosses boîtes, en fait, on rationalise tout dans le sens rationalisé au sens anglais du terme, américain du terme, où on dit non mais ça se passe comme ça, mais c'est normal, on peut rien y faire. C'est-à-dire que lui se battait contre ce dont Nassim Taleb parle aussi, c'est le truc de se dire mais non, de toute façon on est trop gros, il peut rien nous arriver.
Ouais.
Et donc du coup, tu as pu justement ces stresseurs qui te permettent de t'adapter. Et donc on avait fait tout un podcast là-dessus pour dire mais comment remettre le sens de l'urgence dans l'entreprise, comment faire en sorte pour que nos collaborateurs se disent ah mais si, mais là il faut faire quelque chose, il faut sortir de nos zones de confort, etc. Donc tu vois, je pense qu'il y a aussi cette notion là, en tout cas en entreprise, de dire je vais le dire autrement, il y a les bons stresseurs et les mauvais stresseurs. Les bons stresseurs, il faut les utiliser justement pour s'adapter, quoi.
Exactement, t'as mis le doigt sur quelque chose de fondamental, et c'était le deuxième effet qui se coule, j'ai envie de dire, la deuxième définition qu'il fallait donner, c'est qu'on a parlé de la différenciation entre stress et stresseur, mais après, dans l'état de stress, il faut faire la différenciation entre stress aigu et stress chronique. Alors, en physiologie, on parle de ça. Est-ce que la réaction, et là, c'est vraiment l'hormèse, donc antifragilité, le stress aigu, puissant, aigu, ça veut dire qu'il est puissant et court dans le temps. Donc, la réaction est puissante du corps, et c'est ce que tu as dans le bain froid, la douche froide, le sport, c'est-à-dire tu te mets dans l'inconfort, mais tu restes pas toute la journée, ça dure peu de temps, par contre c'est intense, et le rebond de ça, physiologiquement, c'est un gain, c'est une amélioration. Donc ça c'est bon, ça on le veut, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de temps en temps, faut se mettre dans cet inconfort-là. Celui qui a, dans le corps humain en tout cas, à évincer, c'est vraiment le stress chronique. C'est celui que je disais dont je parlais tout à l'heure, ça veut dire, le truc il est tout le temps là, il n'est pas très puissant, mais par contre, il est latent. Il est tout le temps, un peu, toute la journée là.
Ouais.
Et donc, ton collaborateur est en état de stress, pas fort, hein, mais quand même constant toute la journée. Il a ses niveaux de cortisol qui augmentent. Ça peut être un truc aussi tout bête qu'une engueulade, en fait. Il s'est engueulé et il y a un rapport qui est avec son collaborateur qui est juste à côté, qui est vraiment...
Ouais, c'est pesant, quoi.
C'est pesant, voilà. C'est pesant, ça passe pas... Et ça lui prend la tête, et il y pense toute la journée, même ça l'empêche de dormir. En fait, c'est ça qu'on veut éviter. Par contre, on veut le moment où, bah, comme tu l'as dit, t'as un consultant externe qui arrive dans l'entreprise et qui dit « Non, mais là, votre manière de travailler va pas. Les gars, faut qu'on change. Vous voyez bien, ça marche pas. » Et là, il met un gros coup de pied dans la fourmilière. Peut-être que ça, c'était nécessaire. Et ça a mis un gros coup de stress à tout le monde qui dit « Oh, punaise !» Et un gars de l'extérieur, il arrive et il dit qu'on travaille pas bien, mince, on va se remettre en question. Ça, en fait, peut-être qu'il le fallait, ce coup de violent, là. Mais il est aigu, court dans le temps, et le gars, il va pas rester toute la journée à leur taper sur la tête. Donc, il faut bien évaluer stress aigu et chronique, et parce que, physiologiquement, on est très bien adapté pour encaisser quelque chose de fort et rebondir derrière, plutôt que la sensation qu'il y a un tigre derrière la porte toute la journée. C'est ça, en fait, qu'on veut éviter. Voilà.
Super intéressant. Tu vois, moi, je pense qu'on touche un autre truc du doigt, là, qui est intéressant. C'est que, en fait, c'est pas le confort que tu dois chercher pour tes collaborateurs. Et je pense que c'est pas ça qu'ils viennent chercher dans ta boîte. Ils veulent pas une boîte où j'allais dire un gros mot, mais où tu t'ennuies parce qu'en fait, rien ne change, c'est toujours les routines, etc. Je veux dire, ça crée du stress, cette situation-là.
Oui.
Il faut qu'il y ait de l'effort, il faut qu'il y ait du stress, mais pas du stress destructeur, etc. etc. C'est ça qui rend notre job passionnant.
Exactement.
Sinon, t'as rien à raconter quand tout à l'heure, je prenais l'exemple du mec à la fin de sa vie. Ouais, moi, je suis super content, j'ai réussi ma vie, j'ai eu une vie super confortable.
Ok.
Ça n'arrivera pas, ça.
C'est pareil. Le mec qui rentre à sa maison et qui dit « je suis super content de mon travail, il ne s'est rien passé aujourd'hui, ouais, c'était génial ». Non, ça, je pense que les gens ne recherchent pas ça.
Non.
Et je le dis en management aussi parce que, tu vois, je ne veux pas qu'on se trompe. Le rôle d'un manager, ce n'est pas non plus qu'il n'arrive rien à ses collaborateurs et que ce soit super confortable tout le temps. Et en plus, ça ne marchera pas. Hein, ce n'est pas comme ça que tu obtiens des résultats. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et devenir un stresseur. Et j'aime beaucoup ton image. Ça me fait penser à une autre personne que j'avais reçue dans le podcast qui nous avait parlé du management avec les éléments chinois, qui nous disait le manager, c'est le feu, c'est l'élément feu. Et il dit l'élément feu, ça peut éclairer, ça peut réchauffer, mais ça peut brûler aussi, ça peut cramer. C'est-à-dire que si t'es tout le temps en train de dire « mais ça va pas », etc., tu vas brûler tes collaborateurs. Mais il faut quand même qu'il y ait ce moment où tu dises « non, mais là, ça va pas, il faut que ça change ». Ce coup de stress-là, ce coup de dire « non, là, il faut que ça change », c'est de ta responsabilité de manager.
Exactement. Non, mais on veut des aventures. On veut tous vivre une aventure, une quête. Quelque chose où il se passe des choses intéressantes. Si on va dans un salle, on va voir un film au cinéma, on veut pas que le héros il lui arrive rien. Enfin, on veut qu'il se passe quelque chose. On veut qu'il tombe, qu'il se casse la gueule et qu'il se relève. Donc, on peut pas promettre une vie en entreprise qui ne ressemble pas à ça. Voilà, c'est clair. Je te rejoins totalement.
Super intéressant. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de notre conversation. Je trouve qu'on a abordé plein de sujets vraiment intéressants. Le but, c'est pas forcément de vous donner des solutions toutes faites, c'est simplement d'ouvrir votre esprit. Et puis moi, tu vois, ça m'a fait des déclics. Tu vois, on n'a pas parlé beaucoup de management, mais en fait, c'est exactement ce que tu dis. Il y a des principes. Et les principes, en fait, ils s'appliquent quel que soit le domaine, et y compris celui du management. Donc j'espère que vous avez tous eu des déclics. On pourrait peut-être conclure. Alors je sais pas si tu as des idées là-dessus, qu'est-ce que, là, tout de suite, en sortant de l'écoute de cet épisode, qu'est-ce que tu voudrais conseiller aux managers qui nous écoutent? Est-ce que tu aurais, ou chef d'entreprise d'ailleurs, est-ce que tu aurais des pratiques qui t'ont aidé, toi, et qui pourraient les aider?
Il y a quelque chose qui me vient tout de suite. Et c'est tout simple, et on l'a déjà évoqué hein, dans nos échanges, c'est demandez-vous simplement si vous êtes toute la journée dans le même bureau. Si c'est le cas, si vraiment c'est le cas, mettez du mouvement et faites sortir vos collaborateurs en dehors de l'entreprise. Okay ? Ça peut être tout simple, mais un moment dans la journée, maintenant on instaure que quotidiennement, on se retrouve tous, hein, c'est pas on y va à 4-5, on se retrouve tous dans le parc, on se retrouve tous ailleurs, on sort et on échange. Et même mieux que ça, on va allier l'utile à l'agréable. C'est après chaque repas. Donc il peut y avoir le petit déjeuner que vous partagez, croissant, machine à café à 10h. Ou le plus simple, c'est le déjeuner de midi. Vous mangez tous à la cantine, etc. Mais après, tout le monde à 13h ou 13h30, peu importe, on s'en fiche, part faire une marche digestive pour réguler la glycémie sanguine, donc le sucre que vous avez dans le sang. Il n'y a rien de mieux que marcher après avoir mangé. Et on fait tous une marche d'une demi-heure. Et dans la marche, vous allez voir comme les langues se délient. Vous allez voir comment vous allez parler du client, machin, etc. Puis il y a un gars qui va tendre l'oreille et dire « Ah, mais moi, j'ai une idée pour ça. » En fait, les cerveaux vont s'aérer. Donc si vous ne faites pas ça déjà, que vous restez vraiment H24 dans les mêmes locaux, mettez en place une routine de « on sort des locaux, on prend l'air, on fait quelque chose, mettez du mouvement ». Voilà, c'est peut-être bateau et simple, mais pour moi, c'est extrêmement puissant de faire ça.
Ok. Intéressant. On le voit hein, d'ailleurs quand on fait une réunion ailleurs. Moi, je sais qu'il y a des réunions, plus des réunions de direction, puisque moi j'ai des managers qui managent mes entreprises. Je préfère pas les faire sur site. On n'a pas du tout la même réunion.
Mais clairement.
Incroyable.
Bien sûr.
Incroyable. Ces réunions qui sont sur site, elles sont trop ancré dans le quotidien. Et quand tu veux faire la réflexion sur la stratégie, etc., faut pas te mettre sur site.
Mais bien sûr, bien sûr.
Ok, super intéressant. Pierre, comment on rentre en contact avec toi? Comment
S'il y a des gens, alors je ne sais pas si tu es ouvert à ça, ont envie de te poser des questions, ou s'il y a des points qui les ont interrogés, c'est quoi la meilleure manière de rentrer en contact ?
Ouais, alors écoute, les réseaux sociaux sont pas mal pour ça. Vous me retrouvez sur Verisme TV, ça s'écrit V-E-R-I-S-M-E, plus loin TV. C'est le nom de la chaîne YouTube, c'est le nom de l'Instagram. Instagram, ce sera sans doute facile pour écrire. Moi, je suis devenu cet électron libre qui vient donner des coups de pied dans la fourmilière dont on a parlé tout à l'heure, en fait, hein. Ouais. Dans le milieu sportif, dans le milieu des entreprises, évidemment, pour faire des stages, des séminaires, peu importe. Si vous avez envie de faire appel à moi, ce sera avec grande joie. Après, évidemment, pour les auditeurs qui veulent s'inscrire dans un cursus sur le long cours, se former pendant 18 mois, voire 2 ans, il y a mon centre de formation qui s'appelle le Centre Naturopathie et Hormèse. Ça, vous le trouvez sur www.hormèse.com. Et là, c'est, on s'inscrit vraiment dans un cursus qui peut prendre plusieurs années, mais où on apprend tout ce qu'on a défriché avec toi, Cédric, aujourd'hui, c'est-à-dire les lois du vivant, les neurosciences, les sciences comportementales.
Ok, on mettra tout ça de toute façon en descriptif sous le podcast ou sous la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je te remercie infiniment, j'ai trouvé ça super intéressant, ça nous a un peu sorti de nos habitudes, mais c'était l'objectif, c'était le but. Je trouve que c'est intéressant de le faire régulièrement, je te remercie.
Merci beaucoup, Cédric, vraiment.
Et puis de toute façon, on reste en contact, on aura peut-être l'occasion d'échanger à nouveau.
J'espère bien. Merci, super. Vraiment.
J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une formation. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. À bientôt. Salut. Depuis que j'en parle, on a de plus en plus d'avis 5 étoiles et de commentaires positifs sur les applis de podcast. C'est génial, ça nous fait remonter dans les rankings, ça fait que de plus en plus de personnes écoutent notre message, et puis en plus, évidemment, ça nous fait hyper plaisir. Donc, continuez, si ce n'est pas encore fait, laisse un avis positif, donne-nous un avis 5 étoiles sur ton appli de podcast, ça fait super plaisir et c'est bien pour tout le monde. Merci beaucoup.